Bonjour, la première des choses, et je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes très matinal, ça c'est super. Comment est-ce qu'on fait pour réussir une demande de subvention? Comment est-ce qu'on rend un texte gagnant? Comment est-ce qu'on rend ce texte-là intéressant pour celui qui va le lire, pour que finalement, en bout de ligne, la personne dise « Oui, ça c'est une idée de recherche intéressante, et puis je veux qu'elle soit subventionnée, puis cette personne-là mérite d'avoir de l'argent » pour pousser son idée. Donc, l'objectif que j'ai ici ce matin, c'est de vous familiariser avec divers éléments de base qui vont être liés à la production d'une demande de subvention efficace. L'autre chose aussi que je me suis rendu compte quand j'ai fait ça, c'est que ça devrait, en principe, dans vos milieux immédiats, peut-être vous encourager à développer des groupes volontaires pour analyser les demandes de subventions qui vont être écrites par vos voisins, puis etc. De sorte que comme ça, vous pouvez critiquer vos voisins et vos voisins vont pouvoir vous critiquer aussi. Et de cette façon-là, ça devrait aussi vous aider à mieux faire une demande de subvention. Ben, je profite de l'occasion pour remercier Georges et puis Myrna qui ont pensé que c'était important. Je pense que ça l'est, mais bon, il y a peut-être des gens qui trouvent que dormir ce matin, c'est aussi important, donc je pense qu'il faut respecter ça. Non, puis moi, je vais vous dire franchement, ça fait 25 ans que je suis en recherche, j'en ai écrit je ne sais pas combien, les demandes de subvention, et quand on m'a demandé de faire ça, de réfléchir à ça, ça m'a pris du temps pour avant de trouver la façon que j'allais arriver à livrer mon message, puis je me suis rendu compte qu'en faisant ça, ça a amélioré même moi mes façons de procéder. Donc, lorsque ça vous tente, vous pouvez m'interrompre. Et finalement, bien, j'espère que cet atelier-là va vous servir de guide, que vous allez pouvoir l'utiliser. Si vous en voulez une copie PDF, juste à me le dire, donnez-moi votre courriel, puis je vais vous l'envoyer. De toute façon, Cette présentation-là, elle est sur le site de l'Espace francophone de pneumologie. Elle est déjà déposée sur le site. Et j'espère finalement que ça va vous permettre de l'utiliser en référence dans vos prochains projets. Bon, ici, c'est mes fonctions universitaires. Je pense que ce n'est pas vraiment important. Sauf que c'est vraiment ma spécialisation, les projets de recherche, écrire et puis tenter d'avoir de l'argent pour rouler mon labo. En termes de conflit d'intérêts, je n'en ai pas. Donc, c'est ça. Ah, moi, j'ai un laboratoire de recherche en biologie moléculaire, endocrinologie et physiologie, axé sur le développement pulmonaire, les grands prématurés et mécanismes d'action des stéroïdes sexuels dans le développement pulmonaire. Mais ce n'est pas de ça que je vais traiter du tout. Donc, c'est ça que je disais tantôt, c'est-à-dire que vous avez une idée et entre l'idée et la production du texte, bien, il y a tout un cheminement, il y a tout un processus qu'il faut faire et c'est un petit peu ça que je vais tenter de vous expliquer. Mais surtout, quand vous décidez de vous lancer dans une aventure comme ça, le premier prérequis, la première chose que vous devez être très consciente, c'est que ça va vous demander du temps. C'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas un exercice qui est facile. Et c'est pour ça qu'il faut bien le structurer, puis ça demande du temps. Donc, c'est la première chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vous donner le temps de le faire. Réussir une demande de subvention, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une idée, comment cette idée-là va devenir intéressante pour un organisme? Donc, il y a plusieurs étapes. Mais la première des choses, on n'en parlera pas ici ce matin, là, mais la première des choses qu'il faut faire à partir du moment où vous avez votre idée, c'est la revue de littérature. Ça, je ne le traiterai pas aujourd'hui, puis je ne le traiterai pas demain non plus, parce que c'est tout un autre atelier en soi, faire le tour des bases de données pour essayer de voir qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les lacunes et comment est-ce que votre projet s'imbrique dans toute cette littérature-là. Naturellement, pour tous ceux qui font de la recherche, vous êtes dans un milieu à but non lucratif et puis c'est la seule façon que vous avez pour obtenir, pour être capable de faire une recherche efficace, c'est d'avoir des fonds. Donc, pour avoir des fonds, il faut faire des demandes. Puis, pour faire des demandes efficaces, je pense que ça prend de la structure. Parmi les moyens de récolter des fonds, l'obtention de fonds par l'entremise d'une demande de subvention, c'est à peu près la seule façon que vous avez pour contribuer au succès de vos activités. Puis je le dis et je le redis, ça demande beaucoup de discipline. Puis quand on est conscient de ça, ça va relativement bien. Puis aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que un coup que vous avez écrit une demande de subvention sur un sujet donné, si vous l'avez, bien, naturellement, ça va prendre un certain temps avant que vous reproduisiez une demande de subvention, 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Mais si vous ne l'avez pas, vous avez déjà un backbone et puis vous allez être capable de vous servir de ça pour améliorer et continuer le processus jusqu'à temps que vous l'ayez. La façon dont j'ai bâti l'atelier, c'est que je l'ai bâti en termes d'outils, c'est-à-dire que j'ai développé, je ne suis pas tout seul, vous allez voir dans la présentation, il y a des références, mais essentiellement, j'ai rassemblé tout ça sous forme de 12 outils techniques et j'espère que ça va vous aider. Essentiellement, mon message est celui-là, puis je vous le dis dès le début, parce que malgré tous les efforts que vous allez faire, vous n'aurez jamais le contrôle sur celui qui va lire votre texte puis sur l'attitude que le lecteur va avoir sur votre texte. Ça, vous n'aurez jamais le contrôle de ça. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est que vous avez présenté un texte, vous avez présenté une structure et un texte qui va être accessible et qui va être agréable pour celui qui va le recevoir et qui va l'intéresser. Ça, c'est votre objectif. Le restant, je suis désolé, mais c'est pas dans vos mains. L'autre chose que je veux vous dire tout de suite, immédiatement, c'est si vous essuyez un refus, si vous avez une critique, ne prenez jamais ça comme étant personnel. Aujourd'hui, les demandes de subvention, les cut-offs sont en bas de 25 %. Donc, ça veut dire que 75 % des gens qui envoient des demandes de subvention et qui ont des refus. Dans ces 75 %-là, mettons qu'il y a peut-être 25 % de gens que c'est leur première demande et que les demandes présentaient des lacunes importantes. Le restant, là, je regrette, là, mais c'est pas des imbéciles, hein? C'est toutes des demandes qui, en principe, auraient dû être financées. Mais les moyens financiers étant ce qu'ils sont, les restrictions budgétaires, etc., ben, il faut pas prendre ces critiques-là comme étant personnelles parce que on devient, comme à un moment donné, un peu maso, là, tu sais, je veux dire, il faut quand même pas être fou avec ça. Donc, le premier tool que je vous donne, c'est le temps. Et là, on est toutes face à la même affaire. On a trop à faire, on n'a pas assez de temps. Mais il faut prendre le temps de le faire. Donc, la gestion du temps va être essentielle à la réussite de votre demande afin de compléter un document qui va être présenté d'une façon très professionnelle et surtout pas à la hâte. Et pour ça, il y a peut-être des choses qui vont vous être très évidentes dans ça, mais prenez le temps d'y penser, puis c'est important. Commencez dès que possible. Vous devez vous assurer de commencer assez tôt, surtout pour une première demande, un premier jet. 3, 4, 5 mois à l'avance, c'est pas trop, parce que il faut faire la revue de littérature, il faut bâtir l'ossature de la demande, il faut déterminer les espaces relatifs à chaque portion de la demande, parce que votre demande doit entrer dans un nombre de pages fixes, souvent avec des caractères fixes, puis avec des grosseurs de caractères fixes. Donc, vous n'avez pas 25 pages, des fois, vous avez juste 10 pages ou 11 pages pour être capable de bien exprimer votre idée. Deuxièmement, le temps dédié à votre demande sera reflété dans la version finale. Puis une demande qui a été écrite à la hâte, les lecteurs, quand on lit une demande et que cette demande-là a été écrite vite, on le sait, on le sent. N'attendez pas à la dernière minute, n'attendez pas quelques semaines avant la date d'échéance pour produire votre texte. Un peu partout dans la demande, j'ai mis des choses comme ça. C'est juste des petits clous que je vous lance comme ça pour stimuler puis pour vous dire que finalement ben ça vous fait prendre conscience de certains d'attitudes à avoir lorsque vous vous asseyez devant une page blanche puis que vous dites ben là j'ai une demande de fonds à écrire. Saviez-vous que les bailleurs de fonds ne seront intéressés à vous appuyer que si votre idée est rédigée d'une façon convaincante et que votre document est bien préparé et bien présenté? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fond de la demande, la science doit être bonne, peu importe la science que vous allez mettre dedans, ça reste de la science. Cette science-là doit être bonne, mais aussi le contexte dans lequel le hardware autour, le software autour, doit être aussi intéressant, puis ça doit être un document agréable à regarder, agréable à manipuler, et ce faisant, agréable à lire. Il y a plusieurs, il y a plus, je sais pas comment ça sort bizarre. Hein? Il y a plusieurs trucs qu'on peut utiliser. Moi, j'aime bien quand j'écris un texte, surtout un texte d'une douzaine de pages. J'aime bien très très rapidement dans les premières lignes que le lecteur sache exactement qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux faire, quelle est mon idée. Et c'est ce que j'appelle le synopsis de la demande. Et habituellement, le synopsis, je le mets dans la première page de la demande de fond, d'accord? Et dans cette page-là, le lecteur va être situé sur, je prends mon cas à moi, là, donc sur quelle maladie je travaille, quelles sont les thérapies courantes, face à ces thérapies-là, quelle est la problématique que j'y vois, quel est mon but à long terme, quels sont les résultats que j'ai en main pour appuyer mon objectif. Après ça, je décris les buts immédiats, quelles sont mes hypothèses de travail et quel est le résumé du protocole expérimental que je vais mettre en place pour arriver à démontrer tout ça. Et ici, vous avez un exemple de synopsis que je fais. Donc, voyez-vous, je ne sais pas si je fais ça, ça paraît pas. Hein. Donc, voyez-vous, vous avez la maladie. Donc, souvent, c'est des outlines. Hein, tu sais, je veux dire, ce qu'il y a de bien en anglais, c'est qu'on peut écrire des phrases sans mettre de verbe. Et donc, ça, c'est très pratique. En français, c'est très difficile, puis ça prend plus de mots. Fait que c'est pour ça que toutes mes demandes, moi, sont toujours écrites en anglais. Je suis plus à l'aise comme ça. Mais voyez-vous, ici, dans cette page-là, là, j'ai résumé les 14 pages qui suivent de ma demande de subvention. J'ai expliqué quelle était la maladie sur laquelle je travaillais, quelles étaient les thérapies courantes face à cette maladie-là, quelle était la problématique que moi je voyais à travers les thérapies existantes. Et cette problématique-là, souvent, ce n'est pas moi qui la rapporte, ce sont d'autres scientifiques qui l'ont rapportée. Quel est mon but à long terme? Quelles sont les données qui me permettent d'avancer certaines hypothèses pour faire progresser le sujet en question? Quel est finalement le nouveau concept qui devrait sortir de ma demande de fonds, qui devrait sortir de mes travaux? Puis finalement, quel est le grand but du travail que je vais présenter? Donc ça, là, quand mon reviewer a lu cette page-là, là, il sait exactement d'où est-ce que je suis parti puis où est-ce que je vais arriver. Donc, quand après ça, il tombe dans le texte, où là, ces différentes sections-là sont plus élaborées, bien, à ce moment-là, il est capable de suivre. Puis si jamais il perd le fil pour une raison ou pour une autre, il peut toujours se référer à la première page puis dire, ah, OK, il est rendu là. En tout cas, je trouve que moi, c'est très, très pratique d'avoir ça. Vois-tu, à la suite de ça, d'accord, je développe l'hypothèse, puis après ça, voyez-vous, je vais mettre quel est mon but vraiment spécifique dans la demande. Exactement, qu'est-ce que je veux faire à travers tout ce qui serait possible de faire, moi, dans la demande de fond, quel est l'objectif que je préfère appliquer. Puis après ça, ben, je vais tomber dans ce que j'appelle le texte qui est beaucoup plus exhaustif, où là, je repars du début, mais je développe, et puis j'amène mes hypothèses, puis j'amène mes objectifs et tout ça. Le deuxième tool, d'accord, le deuxième outil sur lequel il faut réfléchir, c'est l'échéancier. L'échéancier, c'est capital. Il faut se préparer d'avance afin de bien compléter les renseignements demandés. Fixez-vous du temps pour chacune des étapes. On va les voir tantôt, c'est quoi les étapes dans la préparation d'une demande de fonds. C'est important de se fixer du temps pour chacune de ces étapes-là. Si c'est la première fois que vous le faites et que vous n'êtes pas habitué, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas un tableau? À telle date, je devrais être rendu à tel endroit. À telle date, ça devrait être fait. De sorte que comme ça, vous ne serez jamais bousculé par le temps, puis vous ne serez pas à dire, ben là, je suis rendu à 3 semaines de la demande, puis regardez tout ce que j'ai encore à faire. Parce que dans ce temps-là, c'est horrible. Les dates, et surtout si vous faites un travail en équipe, les dates de travail doivent être choisies en équipe, surtout pour le plan conceptuel, la première version de la demande de subvention, ainsi que pour la révision finale de la version finale, que vous croyez finale, de votre demande. C'est capital si vous êtes un groupe. Il faut que l'ensemble du groupe ait le temps de donner son opinion, de donner son feedback de digérer tout ça, puis après ça, de produire vraiment un document final. Le troisième toolbox que je vous donne, c'est la précision dans l'écriture de la demande. Prenez le temps de vous familiariser avec tous les éléments du projet afin de bien les expliquer sur papier. Ça paraît simpliste. Si vous faites une demande individuelle, c'est relativement simple. Vous n'aurez pas à rencontrer ce problème-là parce que vous maîtrisez votre sujet, vous êtes tout seul dessus. Mais si vous êtes 4-5 autour d'une question de recherche, ben, il n'y a rien de pire que de dire, si on sait qu'il y a 5 personnes, d'avoir l'impression de lire un texte écrit à 5. C'est horrible. C'est horrible parce que c'est 5 styles différents. C'est horrible à lire. Donc, il faut que la personne responsable de la demande soit capable de reprendre les textes de tous et chacun, puis de les refondre, de les remanipuler pour que ça ait l'air écrit par une seule personne. Mais ça, si on veut faire ça bien, il faut être capable de bien maîtriser les autres aspects, puis de ne pas avoir peur d'aller voir ses collègues, bien, va dire ça, je ne comprends pas, tu peux-tu m'expliquer ça? D'où l'échéancier qui est très important. Souvent c'est ça, oui. Souvent c'est ça, oui. C'est ce qu'on appelle le NPI. Donc, c'est le Nominated Principal Investigator. Ça fait partie de la game. Souvent, c'est lui, oui. Effectivement, vous avez raison. Une demande préparée à la hâte est facilement reconnaissable et donne une impression négative. Et finalement, bien, je le disais tantôt, s'il y a plusieurs de vos collègues autour de vous qui font d'autres demandes de fonds, bien, peut-être que vous pouvez lire les demandes de vos collègues. Ça va vous donner des idées de structure, des idées de « peut-être que je devrais présenter ça comme ça, etc. » Tu sais, il faut s'alimenter de ce qu'on a dans nos environnements immédiats. Le quatrième point, c'est le programme de subvention en tant que tel. Parce que quand vous écrivez une demande de subvention, vous l'écrivez pour un programme. Vous l'écrivez pour un organisme précis, d'accord? Donc, c'est primordial de bien comprendre les critères de la demande de subvention et de déterminer si votre projet de recherche correspond à ces critères-là. Ça paraît banal, hein? Mais j'en ai tellement vu des gens envoyer des demandes de subvention dans des programmes et de se faire dire à la première ronde, « t'es out of focus. T'es pas dans le focus. » Fait que ça s'arrête là, tu viens de perdre 3 mois pour rien. Donc, assurez-vous que vos textes, que votre demande est dans le focus. Vous devez donc vous familiariser avec les objectifs du programme de subvention afin d'être certain que votre projet corresponde à ces objectifs. Puis, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à communiquer avec la personne ressource de l'organisme en question ou en tout cas des personnes ressources qui offrent le programme de subvention afin de bien cerner les attentes. Quelles sont les attentes de l'organisme dans ce programme-là précis pour être certain que votre programme fit dans ça? C'est capital. Vos objectifs correspondent-ils à ceux du programme de subvention? Assurez-vous de mettre en évidence les objectifs poursuivis dans votre demande de subvention. Et un exemple que je donne, maintenant, chez nous, depuis 2-3 ans, au fédéral, quand on fait des demandes de subvention, on doit répondre à des questions supplémentaires, style, est-ce que votre thématique est reliée au sexe? Est-ce que votre thématique est reliée aux questions sociétales, par exemple? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et ça, maintenant, ce sont de nouvelles questions et ça force les gens à réfléchir. Si, par exemple, votre thématique est sexe spécifique, si vous travaillez sur une maladie, je ne sais pas, l'asthme, par exemple, en pédiatrie, l'asthme chez les enfants, garçons-filles, ce n'est pas tout à fait les mêmes phénotypes. Dépendamment de votre projet, peut-être que vous allez devoir tenir compte du phénotype sexuel de la clientèle visée. Donc ça vous fait réfléchir. Saviez-vous que les organismes de subvention qui offrent des programmes de subvention veulent recevoir vos appels et vos questions? Ça peut paraître simpliste, mais pourquoi? C'est parce qu'ils vont prendre avantage de ces questions-là en espérant qu'ils vont augmenter leur taux de succès. Et si un organisme est capable de dire, nous, on reçoit, par exemple, 40 demandes et on donne 25 % de succès ou 50 % de succès, c'est pas mal plus encourageant que si un programme a juste 10 ou 14 %. La présentation n'est pas conçue de cette façon-là. Mais ça, on pourra en discuter après. Mais la présentation n'est pas conçue comme ça. La présentation est conçue comme étant un exercice de réflexion pour vous amener à produire votre demande de subvention. C'est pour ça que quand je dis de bien connaître votre organisme, si vous l'envoyez au NIH, ou si vous l'envoyez à l'ERS, ou si vous l'envoyez à l'Echerie, ou si vous l'envoyez à un organisme de sciences humaines, ça ne sera pas la même façon de faire. Mais le principe demeure le même, sauf que les objectifs spécifiques vont changer. Ben, écoutez, par exemple, si vous êtes en Amérique du Nord, ben, vous pouvez faire des applications aux IRSC, par exemple, Institut de recherche en santé du Canada. Vous avez le Conseil national de sciences et génie aussi. Vous avez après ça le Conseil de recherche en sciences humaines. Aux États-Unis, vous avez le NIH, vous avez le March of Dimes, vous avez tous les programmes stratégiques. Au Canada, il y a aussi beaucoup de programmes stratégiques. En Europe, vous avez les Global Applications. Il y en a tellement. Si vous allez sur le site, je pourrais vous le dire, parce que là, je veux vous le dire, je ne suis pas capable de m'en souvenir. Mais il y a un site qui existe où on répertorie l'ensemble ou plusieurs organismes de subvention en fonction des thématiques de recherche. Ça existe, ça. Puis je vous dis, il y en a des pages et des pages et des pages. Hein? Il y en a beaucoup. Fait que commencer à faire ça ici, là, je m'en sors pas, là. Je m'en sortirai pas. Mais si vous voulez, on pourra peut-être en discuter un petit peu plus en détail. Les lignes directrices de la demande sont très importantes. Quand vous appliquez à un programme de subvention, il existe des lignes directrices de ce programme-là. Prenez le temps de les lire. Respectez les différentes directives de la subvention. Assurez-vous d'avoir le bon formulaire de subvention. Souvent, le formulaire change à tous les ans ou à tous les deux ans parce qu'il s'adapte au goût du jour, parce que pour toutes sortes de raisons. Et j'ai vu des demandes de subvention monter sur des mauvais formulaires. Assurez-vous d'avoir la version récente. Puis je l'ai dit tantôt, n'hésitez pas à communiquer avec la personne ressource qui offre le programme de subvention, non seulement pour la sensibiliser à votre travail, à votre sujet, mais aussi pour bien comprendre les lignes directrices du programme. Le sixième point que je vous donne, c'est le comité de vérification. Le comité de vérification, il peut être interne, il peut être institutionnel. Moi, quand j'ai commencé, ça n'existait pas ça. Mais maintenant, dans presque toutes les universités, avant que la demande de subvention soit autorisée à sortir de l'université, parce que ça prend les signatures universitaires, ça va prendre les signatures de vos supérieurs, etc. Donc, avant que la demande de subvention soit autorisée à se rendre à l'organisme de subvention, ils vont la vérifier sur place. Donc, les universités, les facultés ont créé des comités de vérification. Et c'est très important. Donc, essayez, puis souvent vous avez le choix, vous avez différents choix dans ça. Donc, essayez de choisir un comité, surtout si vous prévoyez faire plusieurs demandes, bien, essayez de prendre un comité qui est peut-être assez large pour être capable d'accepter plusieurs de vos demandes éventuellement, de sorte qu'ils vont vous connaître, puis ils vont pouvoir un petit peu plus vous donner de l'aide d'une façon personnalisée. Habituellement, ces comités-là sont composés de 2-3 personnes ou 4 personnes. Et donc, il faut leur laisser temps, il ne faut pas les bousculer, parce que l'objectif, c'est qu'ils vont vous dire, ouais, écoute, ça, je ne l'ai pas très bien compris, parce que, ou ça, c'est très fort, ou ça, c'est trop long. Donc, ils vont vous donner une idée globale de la structure, du fond, et c'est pour vous aider. Habituellement, les membres du comité doivent s'assurer de bien comprendre les lignes directrices du programme, ainsi que le projet en question. Les membres du comité devront réviser le document et offrir leurs conseils au tout début de la demande, idéalement, une fois l'ébauche complétée et avant que la copie finale ne soit rédigée. Et ça, c'est bon pour les juniors. C'est bon pour ceux qui commencent. Les premières demandes de subvention que vous avez à écrire, ce point-là devient important. Quand ça fera 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous en écrivez, c'est juste le produit final qui devra être analysé, qui devra être validé. Mais habituellement, vous n'aurez pas besoin de faire valider à toutes ces étapes-là parce que vous avez du background, vous avez de l'expérience. Puis souvent, les textes précédents vous servent dans les textes à venir, etc. Donc, c'est rare qu'à un moment donné, après 5 ans, 6 ans, 10 ans, on ne part plus d'une page blanche. À moins que vraiment, on change complètement de sujet, qu'on s'en aille dans un autre domaine. Habituellement, c'est des textes qui sont rafraîchis, qui sont renouvelés, mais le backbone est pas mal constant. Les membres du comité devraient pouvoir identifier sur la demande les forces à mettre en évidence et les faiblesses à retravailler. Ils peuvent apporter des conseils sur la présentation, corriger des erreurs de grammaire ou d'orthographe, préparer ou vérifier le budget. Assurez-vous de nommer des personnes qui possèdent l'expertise dans les domaines pertinents. Habituellement, c'est essentiel, et y compris les subventions. Parce que si vos prélecteurs, ceux qui vont valider vos textes, n'ont jamais écrit de demande de subvention, c'est pas mauvais, mais c'est peut-être pas optimal. Les ressources, il y en a. Souvent, c'est parce qu'on n'est pas conscient de ces ressources-là. Mais demandez conseil aux organismes qui vous entourent, qui ont déjà complété des demandes de subventions en question. Demandez leur conseil. Consultez les demandes d'autres organismes qui ont demandé la même subvention que vous, avec succès. Tirez profit de l'expérience des autres organismes. Puis habituellement, en utilisant les personnes ressources des programmes de subvention, vous allez préciser votre sujet avec eux. Puis en retour, ces personnes-là vont vous donner des indices et vont vous aider à remplir votre demande de subvention selon les critères qui s'appliquent à cette demande de subvention-là et au programme. Le huitième point, c'est la clarté. La science, c'est complexe, mais il faut trouver une façon de la simplifier sans perdre la science qu'il y a dans votre texte pour être capable que ça devienne une lecture agréable, une lecture facile, mais il faut absolument que ça demeure une lecture claire. Il faut que la clarté du texte soit... Il faut qu'il y ait une limpidité dans le texte. Donc, la demande doit être bien structurée et propre. Elle doit être agréable et facile à lire. N'hésitez pas à faire relire vos textes par des collègues, par des amis. Vous avez écrit une page, genre, je ne sais pas, vous ne l'aimez pas, vous n'êtes pas sûr. Passez-la à un collègue, dis-moi non ce que tu penses de ça. Afin de vous assurer que les détails du projet sont clairs et précis, de grâce, évitez les erreurs d'orthographe ou de grammaire. On peut faire beaucoup d'erreurs dans un texte, mais des textes, des erreurs de grammaire, de syntaxe et d'orthographe, ça devient difficile, surtout s'il y en a beaucoup, parce que le lecteur, ce qu'il va faire à un moment donné, puis ça ne rendra pas compte, mais il va perdre le fil de votre texte, puis il va chercher les erreurs. Puis il va prendre son crayon, puis il va les entourer. C'est ça qu'il va faire. Puis là, à la fin du texte, il va dire, « Ouais non, j'ai rien compris. » Ce qu'il va marquer comme commentaire, « Text on focus. » Et vous êtes fait. Vous êtes fait. Même si votre texte est très focus, il a perdu le fil à cause de vos erreurs de grammaire et d'orthographe. Une demande bien écrite donne l'impression que vous y avez mis du temps, puis que de la considération a été allouée à cette demande-là. Les objectifs du projet. Est-ce que les objectifs de votre projet correspondent aux critères de la demande de subvention ou aux critères de l'organisme en question? Si oui, vous n'avez pas de problème. Mais si vous avez l'impression que c'est peut-être pas dans le focus, essayez quand même de trouver certains éléments à l'intérieur de votre projet qui vont être capables de coller sur les critères de la demande de subvention. Puis si vous pouvez trouver certaines notions qui sont collées et qui se relient à ces critères-là, assurez-vous de les mettre en valeur, puis collez vos autres objectifs qui sont peut-être moins pertinents au programme de subvention à ceux qui sont pertinents. C'est ce qu'on appelle construire un backbone. C'est de s'asseoir, vous avez votre projet en tête, voici quels sont mes objectifs, le programme focus comme ça. OK, cet objectif-là est très près. Celui-là, il est un petit peu plus long, un petit peu plus éloigné, mais celui-là colle bien. Donc, prenez celui-là, faites-le ressortir, puis après ça, mettez des branches avec vos objectifs qui vont devenir secondaires, qui vont aller se coller sur celui qui est très près. Identifiez dans votre texte clairement les objectifs. Tantôt, on l'a vu dans le synopsis, dans la demande, il faut le faire. Vous faites l'introduction. Après ça, vous faites une revue. Dans votre introduction, vous faites la revue de littérature. Après ça, deuxièmement, vous placez votre sujet. Je vais vous le montrer tantôt. Puis après ça, vous avez une section objectifs. Voici quels sont mes objectifs. Objectif 1, 2, 3. Habituellement, pour une demande de 3, 4 ans, 5 ans, 3-4 objectifs, c'est pas mal le maximum. Et donc, identifiez clairement vos objectifs parce que les évaluateurs de la demande ne devraient pas avoir à deviner quel est le but de votre travail puis comment vos objectifs ou votre but est lié aux critères de la demande de subvention. Parce que s'ils commencent à chercher ça, vous êtes fait aussi, ça c'est certain. Saviez-vous qu'une demande qui n'est pas bien complétée peut détruire un beau projet? La présentation d'une demande peut faire la différence entre « je l'ai » ou « je ne l'ai pas ». Et si vous ne l'avez pas, bien, vous venez de sauter un tour. Puis un tour, c'est une année. Des fois, ça peut être critique pour votre travail. Finalement, un autre point, c'est la vente. Quand j'ai commencé dans ce domaine-là, on ne se posait pas la question parce qu'il y avait quand même un petit peu plus d'argent. Et il y avait cette notion, que la recherche, il y avait une portion de la recherche qu'on savait qui pouvait servir plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans. Et c'était conceptualisé dans l'esprit des gens, ça. Maintenant, depuis une quinzaine d'années, à cause des restrictions budgétaires, à cause du contexte international général, les gens font face à des difficultés financières. Souvent, on doit gérer la décroissance au lieu de gérer la croissance. Et donc, les pourcentages de succès ont chuté. Moi, quand j'ai commencé, les pourcentages de succès étaient autour de 50%. 50%, c'était bien, tu avais une chance sur deux. Puis quand tu avais eu une première demande que tu allais en processus de renouvellement, tu avais 60% des chances parce que les demandes en renouvellement étaient analysées à part. C'était un autre pool d'argent. Maintenant, c'est tout le même pool et c'est 14-15% de succès. Ça fait qu'il a fallu introduire dans l'écriture des demandes de fonds des concepts. Et celui-là, le concept de la vente, en est un. Il faut être capable de vendre son projet. Il faut être capable de vendre l'idée, de dire, il faut que le gars, quand il a fini de lire votre demande, il dise, oui, c'est une demande intéressante qui doit être subventionnée. Et c'est comme ça qu'il doit penser, parce que c'est comme ça qu'il va écrire son rapport. Puis c'est comme ça que votre rapport va arriver sur le dessus de la pile, à l'intérieur des 10 ou 15% des demandes qui vont être subventionnées. Si ce n'est pas ça, vous avez quand même une excellente demande, mais vous êtes à 16% ou à 17%, puis là, vous ne passez pas. Puis c'est « je l'ai » ou « je ne l'ai pas ». Tu ne l'as pas à moitié. Tu l'as à 100% ou tu ne l'as pas pantoute. Donc, vous devez vendre votre idée au bailleur de fonds. Et réussir une demande de fonds, ça requiert plusieurs composants de vente. À la plume, donc quand vous écrivez, vous devez être convaincant et dynamique. Vous devez communiquer, tenter de communiquer l'enthousiasme de votre organisme envers le projet. Un bon vendeur, en principe, quelqu'un qui a eu des bonnes demandes de subvention puis qui est relativement bien subventionné, est habituellement un assez bon vendeur. Donc, assurez-vous d'être capable d'avoir, dans votre environnement immédiat, d'avoir de ces qualités-là de bonnes personnes. À cause des taux de succès qui sont de plus en plus faibles, les retombées de votre activité, il faut que la personne qui va lire votre texte va dire « oui, ça va avoir un bénéfice pour, ça va avoir un bénéfice à, ça va servir à quelque chose et ça ne restera pas sur une tablette ». Puis on ne sait pas trop où est-ce qu'il s'en va avec ça. Donc, soyez précis. Quelles sont les retombées? Quelles retombées aura votre projet pour les personnes de votre communauté? Ici, on est au Liban, donc j'ai rajouté pour la communauté libanaise ou pour n'importe quel autre secteur. Quelles retombées ça va avoir? Selon les critères du programme de subvention, indiquez clairement l'impact sur le groupe qui va être capable de bénéficier de votre travail. Mentionnez les retombées d'une façon claire et persuasive. Les retombées de votre projet sont très importantes dans une demande car elles résument l'impact que votre plan d'activité aura sur la cible que vous allez avoir ciblée. Je l'ai dit à plusieurs reprises, la relecture du projet. La relecture du projet, c'est essentiel au succès de la demande. C'est un travail qui n'est pas facile pour celui à qui vous pouvez le demander, mais c'est un travail qui doit être fait et qui est fait à votre avantage. Faites relire vos ébauches, surtout pour les jeunes qui commencent, je pense à vous peut-être, là. Surtout pour les plus jeunes, faites relire vos textes un petit peu plus souvent, de sorte que vous n'aurez pas à la fin à arriver avec un texte et dire « merde, il faut que je recommence ». Si progressivement, au fur et à mesure que vous avez travaillé, vous demandez à vos amis, collègues, leurs opinions, bien, ça va vous aider, puis tranquillement, votre texte va s'améliorer. Et lorsque vous arrivez à la dernière étape, au niveau de la lecture finale, assurez-vous que le document est complet, que toutes les annexes sont là, que les signatures requises, enfin que tout le batatlan est là, et que pour vous, vous avez une demande finale et complète, prête à envoyer à l'organisme de subvention. De plus en plus maintenant, en Amérique du Nord, en Europe, on demande aux gens qui reçoivent des subventions de faire un rapport d'activité. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est pas grave, j'ai eu mon argent, on va oublier les rapports d'activité. » Non, faites pas ça. Prenez le temps de bien y réfléchir, prenez le temps de bien le remplir, parce que ça fait partie des critères d'évaluation puis de votre admissibilité au prochain concours. Dans 99%, on ne vous le dit pas, mais c'est ça. Donc, si vous faites pas votre rapport d'activité, quand vous allez faire une prochaine demande de subvention, que ce soit pour renouveler ce projet-là ou un autre, on risque de vous dire non. Ça dépend habituellement de la subvention. Quand c'est des subventions de 3 ans, c'est à la fin du projet. Quand c'est des subventions de 5 ans, il y a un rapport d'étape à 2 ans et demi. Puis quand c'est des subventions de 7 ans, il y a un rapport à 3 ans puis un rapport final. Saviez-vous que l'art de rédiger une demande de subvention gagnante tient avant tout de la qualité du projet? Ça, c'est clair. Si votre projet n'est pas de qualité, vous n'aurez rien. Mais en plus de ça, ce qui compte beaucoup, c'est la qualité de sa présentation. Un texte qui est bien présenté, un document qui est propre, qui est agréable à lire, qui est bien illustré. Aujourd'hui, on a de l'informatique, c'est toujours des soumissions en ligne maintenant. Donc, on est capable d'utiliser PowerPoint, Photoshop et whatever comme programme pour faire des beaux dessins, etc. Ça prend du temps, mais ça vaut la peine de le faire. Bon, là, j'ai le choix de... C'est comme vous voulez. Si vous voulez qu'on discute de cette portion-là, on peut discuter de cette portion-là. Ou si vous voulez que je continue, ça va prendre à peu près 12-13 minutes pour terminer, et puis il va y avoir moins d'échanges, ou on pourra faire les échanges demain matin. C'est comme vous voulez. Voulez-vous qu'on continue? OK. Donc, maintenant, je prends maintenant un projet de recherche quelconque, puis je reprends tous mes clous du départ, puis je les rentre dans un projet de recherche. OK? Donc, ça devrait un petit peu vous aider maintenant à... Excusez-moi. Comment organiser, comment structurer tout ça? Donc, au niveau du projet de recherche, je vais vous donner quelques trucs et on va parler de la présentation générale. On l'a dit, mais je les résume. Suivez les directives. Définir les abréviations lors de la première utilisation et gardez-les pour la suite sans exception. Si vous abréviez le mot, je vais dire ça, glucocorticoïde, par G majuscule, C majuscule, S minuscule, ben, à la première fois que vous l'utiliserez, abréviez-le comme ça, puis gardez-le comme ça jusqu'à la fin de votre texte. Si vous décidez de ne pas l'abrévier, c'est correct. Mais si vous commencez à faire des abréviations, utilisez-les tout le long. Mais faites-en pas trop, parce qu'à un moment donné, on ne sera plus capable de lire. Privilégiez la forme active. Utilisez le « je » dans les demandes individuelles. Facilitez la lecture avec titre, sous-titre, numérotation, puce, mais faites-en pas un usage excessif, par exemple, parce que, à un moment donné, il ne faut pas que sur une page de texte, le texte parte, mettons, à un pouce de la marge, puis qu'il s'en aille comme ça. Il faut qu'il reste relativement droit, mais utiliser des sous-paragraphes, des puces, ça allège et on sait instinctivement que ça devient des sous-chapitres. Si vous utilisez des figures, c'est permis, utilisez-en, mettez des tableaux, faites des récapitulatifs. Les majuscules, les caractères gras, les italiques, les soulignés, ça permet de mettre en évidence des informations clés. Puis finalement, corriger les fautes. Au niveau du style, quand vous allez écrire, soyez convaincant. Qu'est-ce que ça veut dire? Transmettez une image positive de votre travail, de votre équipe si vous êtes en groupe. Soyez explicite, ne laissez pas subsister aucune incertitude. Soyez clair et précis. Soyez exhaustif. Soyez concis. En anglais, c'est facile. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup écrire en anglais, parce qu'on va dire dans 10 mots, ce qui prend à peu près 15 mots à dire en français. Et donc, la langue anglaise est merveilleuse pour ça. C'est rapide, c'est concis, puis il n'y a pas de taponnage. Et soyez précis. Au niveau du style, les autres choses qu'il faut faire attention, soyez impartial, et ça c'est important. Demeurez neutre et objectif. Sauf si cela s'impose, ne reposez jamais vos dires en disant que l'autre s'est trompé. Si vous tombez sur une publication qui est fausse, dites pas qu'il y a eu des erreurs dedans, dites que le résultat devrait conduire à, mais ne conduit pas à. Ou trouvez une façon, mais dites jamais que la personne s'est trompée. Parce que cette personne-là, si elle a publié, elle a été relue par un pair. Donc, si vous dites qu'elle s'est trompée, c'est parce que celui qui l'a relue s'est trompé aussi. Puis l'éditeur de la revue s'est trompé aussi. Ça fait qu'il faut faire attention dans ce genre de choses-là. Soyez simple. Évitez les phrases avec une syntaxe trop complexe. Sujet, verbe, complément, c'est la recette gagnante. Évitez les incises parce que les effets sont soit stylistiques, énonciatifs ou encore discursifs. Donc, il ne faut pas mettre... En tout cas, moi, je déteste des textes avec des incises. Adoptez un style vivant, variez la structure de vos phrases et n'hésitez pas à formuler des questions qui interpellent le lecteur. Le titre, c'est la première impression. Le titre, il doit être concis, descriptif, pertinent et court, habituellement sur une ligne. Des titres sur 3-4 lignes, là, ça ne marche pas. Trouvez une façon de ramasser votre titre sur une ligne. Le résumé, je vais vous en montrer un tantôt. Description du projet, moi, c'est comme ça que je le bâtis. Dans l'introduction, je mets le contexte et l'objectif. Après ça, je passe à la problématique et aux états de connaissance. Après ça, je distingue clairement de ce qui est connu et ce qui est important de découvrir et dire pourquoi. Puis là, si vous connaissez les évaluateurs qui vont vous lire, adaptez votre style à ces évaluateurs-là. Ça prend d'expérience un peu, mais à un moment donné, vous allez acquérir cette expérience-là. Vous allez envoyer des demandes à des comités spécifiques. Ces comités-là, vous les connaissez, vous savez comment ils pensent. À ce moment-là, vous êtes capable d'adapter votre écriture à ces comités-là. Ça prend un peu d'expérience, mais ça vient avec le temps. Hypothèses ou questions de recherche. Mentionnez les hypothèses et les alternatives s'il y a le cas d'avoir des alternatives. Et dites pourquoi vous avez choisi celle que vous avez décidé de défendre. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre les hypothèses, il y en a peut-être plusieurs, mais vous décidez d'aller vers celle-là. Dites pourquoi vous allez vers celle-là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas obligé de dire que les autres sont pas bonnes, mais moi, je vais dans cette direction-là pour telle et telle raison. Les objectifs doivent être réalistes, réalisables. La méthodologie doit être claire. Il faut savoir comment les objectifs vont être atteints. Il faut être clair, cohérent. Ça prend une méthode qui est complète pour réaliser les objectifs. N'oubliez pas d'inclure les contrôles si jamais ça s'adresse à vous. Taille et nature des échantillons, processus et collecte, analyse, interprétation des données, résultats escomptés et finalement prévenir les critiques, c'est ce que j'appelle les pitfalls. Vous dites, malgré tout ça, moi, mon objectif, mon expérimentation devrait me conduire à tel résultat. Mais c'est possible que ça ne donne pas ce résultat-là. Ça pourrait donner celui-là. Mais si ça donne celui-là, ce n'est pas mauvais parce que... Ça veut dire que vous avez pensé. Ça veut dire que votre projet est bien dans votre tête, puis vous savez où est-ce que vous vous en allez. S'il y a des éléments additionnels, ben gênez-vous pas pour les mettre. Échéancier de travaux, collaboration, partenariat, environnement scientifique, innovation, impact, retombées socio-économiques de la recherche. Si vous avez un plan de diffusion des résultats, mettez-le. Intégration à un plan de stratégie plus global, formation de personnel hautement qualifié, c'est-à-dire que vous allez engager des techniciens, des assistants de recherche, des professionnels de recherche, vous formez des gens hautement qualifiés, vous le précisez dans vos textes. Puis quand vous remplissez ces demandes de subvention, c'est toutes des questions sur lesquelles on va vous questionner ça. Donc, si vous y avez réfléchi avant, bien, vous aurez une réponse à leur donner. Le budget, bien, il faut bien le ventiler, puis il faut bien l'expliquer, puis il faut surtout pas dire qu'on va dépenser de l'argent sur des items sur lesquels vous n'avez pas le droit. Si vous n'avez pas le droit de payer de salaire, bien, allez pas dire que vous allez payer du salaire. Utilisez l'argent tel que c'est prescrit par le programme. Le choix des évaluateurs externes, souvent dans les programmes de subvention, on va vous donner le choix. On va vous dire, dis-nous par qui tu aimerais être évalué, puis dis-nous aussi par qui tu aimerais ne pas être évalué, pour des conflits d'intérêts, toutes sortes de raisons. C'est à vous de juger. Moi, j'hésite toujours à mettre, je ne veux pas être évalué par un tel, un tel, un tel. J'aime pas ça. À moins que ce soit vraiment des conflits assez forts, je préfère ne pas mettre ce genre de choses-là. Puis les conflits d'intérêts classiques, personne avec qui tu publies, personne avec qui tu es sur même université, etc., ce sont des conflits d'intérêts classiques et jamais un collègue va avoir à t'analyser. Les erreurs les plus courantes, des projets de recherche qui sont trop ambitieux, irréalistes, non faisables. Ça peut paraître banal, mais ça arrive. Manque d'expérience, revue de littérature, descriptive plutôt que critique. Il faut être critique de la revue de littérature, il ne faut pas juste en faire une description. Éviter les assemblages rapides d'informations collées sans uniformisation. Et ça, je dis ça, c'est surtout dans le cas pour les équipes. Trop d'informations non pertinentes, projets superficiels, non ciblés, mal ciblés, sans originalité, description vague de la méthodologie. Le résumé, il est critique. Parce que c'est le premier document, après le synopsis, s'il y en a un, la personne qui va vous évaluer va aller voir le résumé de recherche pour avoir une idée encore plus globale de ce que vous allez faire. Donc, c'est extrêmement important. Le résumé de la demande est une partie très importante. Il faut prendre le temps de bien le faire. Description brève mais précise, complète de votre activité, incluant des références aux objectifs. Je l'ai dit, il est souvent utilisé par les évaluateurs pour faire une première évaluation de votre demande. C'est souvent la seule partie de la demande qui va être lue par tout le monde autour du comité de sélection. Donc, soyez précis dans ce texte-là, c'est très important. Le refus. Le synopsis, il fait partie de ton research proposal. Souvent, le résumé, c'est une page à part dans la demande. Et cette page-là, elle est enlevée de la demande et c'est ce qui circule autour du comité de sélection. Parce que votre demande ne sera pas lue par tout le monde. Elle va être lue par 3-4 personnes. Mais si autour de la table, il y en a une quinzaine, les 15 vont avoir le résumé. Ça peut être le même texte. Habituellement, non, parce qu'un résumé, ce n'est pas des outlines, mais ça peut être le même texte. Ça pourrait être le même texte. J'ai vu des mêmes textes. Mais à ce moment-là, c'est pas pire de prendre le synopsis puis juste de mettre des verbes dedans, là, tu sais. Habituellement, c'est plus facile. Le refus, bien, je vous le dis, hein, il faut pas prendre ça personnel, c'est la pire affaire à faire. Puis, bien, si vous avez un refus, bien, je pense qu'il faut, chez nous, on dit ça à la prochaine fois, parce que ça fait référence en 76, lorsque le Parti québécois a pris le pouvoir, en 1980, le premier référendum, René Lévesque, en pleurant, avait dit « à la prochaine fois ». Donc, ça veut dire qu'il ne faut jamais perdre espoir, puis il faut continuer. Mais moi, je ne suis pas indépendantiste. En conclusion, bien, je dirais ceci, remplir une demande, ça demande beaucoup de structure, beaucoup d'organismes, de patience. Assurez-vous, dans la mesure du possible, de travailler en équipe, pas seul, c'est plus facile. Il faut commencer tôt, il faut cibler le bon programme, il faut faire appel aux personnes ressources, utiliser un langage qui est compréhensible, clairement vos hypothèses, vos objectifs, insister sur l'originalité, l'innovation, la valeur ajoutée, décrivez de façon claire et persuasive l'impact et les retombées, inclure un échéancier dans la mesure du possible. Et finalement, je terminerai en disant que c'est Boileau. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et il y a Lynn Johnson qui a dit aussi une chose intéressante, je l'ai traduite cependant. Les seules choses qui sont impossibles sont celles que l'on ne commence pas. Donc, bon succès et j'espère que ça va aller bien. Et si vous le désirez, demain matin, je peux être ici, on peut parler. On a encore une heure demain matin si vous voulez. Je vais me présenter. Si vous préférez, si vous dites non, c'est correct, j'en ai assez, à ce moment-là, c'est comme vous voulez. Là. Moi, il n'y a pas de problème. Oui. Oui, ça se fait de plus en plus. Moi, j'en ai un avec moi. Moi, j'ai un assistant de recherche avec moi, Dr. Provost. Ça fait 22 ans qu'il est avec moi. Et je dirais que oui, effectivement, ça aide beaucoup. Parce qu'habituellement, le chef de laboratoire n'est pas souvent là, il est souvent parti. Et donc, ça aide beaucoup.
Il y a aussi des gens qui aident selon l'organisme auquel tu vas faire appel pour ta demande. Par exemple, nous, quand on a eu la subvention à Tunis du Val-Franc, on nous a indiqué une personne qui aide à écrire des ressources pour les requêtes pour le Val-Franc. Et sans cette personne, on n'aurait pas eu de connaissance.
Oui, effectivement. Ça, c'est quand tu vas vraiment dans des gros projets, dans des grosses affaires. Là, mais pour les subventions, ce que je dirais pour les subventions de fonctionnement courant, d'avoir quelqu'un qui est avec toi depuis un certain nombre d'années, puis qui connaît bien tes sujets, etc., ça va bien. Mais quand tu vas dans des organismes comme ça, c'est comme nous autres quand on va du côté des FCI, par exemple, donc les Fonds canadiens pour l'innovation, où là, on fait des demandes de subventions de 7, 8, 9, 10 millions de dollars. Oui, on a l'université nous assigne une personne pour nous aider parce qu'il y a tellement de documents, il y a tellement de choses que c'est impossible. Mais tu es toujours responsable du fond de ta demande. Ça, c'est ta responsabilité à toi. Et donc, d'avoir une personne avec qui tu travailles depuis une vingtaine d'années qui connaît bien tes choses, ça aide. Donc, on va s'arrêter là. OK.